Tintine, histoire d'une méchante petite princesse, par Marie, reine de Roumanie, troisième cassette, deuxième piste, page 82. Kildine se sentait de plus en plus agitée. À vrai dire, c'était un moment solennel. Dans son désir de prouver dès le premier instant sa complète conversion, elle se laissa glisser au bas du mur et s'exerça à faire la révérence. Cette révérence alla se perfectionnant jusqu'au plongeon le plus profond. Alors, satisfaite du résultat, Kildine regrimpa à son poste d'observation. À sa grande joie, elle découvrit que le cortège se rapprochait rapidement, si bien qu'à présent, elle pouvait reconnaître sans peine le destrier, c'est-à-dire le cheval de guerre, de son père et le palefroy, c'est-à-dire le cheval de promenade, le palefroy blanc de la reine Gunara, et derrière, ô joie, son petit poney bai, c'est-à-dire brun rouge, conduit par un groom en pompeuse livrée. Mais qui venait ensuite ? À qui cette opulente silhouette débordant de la selle et dont le cheval avait été choisi dans la race imposante des percherons, des gros chevaux énormes qui tiraient d'ordinaire des charrettes très lourdes pour supporter le poids confié à son dos. Était-ce bien la grosse dame bouffie, sa vieille nourrice, que la mauvaise conduite de son Altesse royale, la princesse, avait éloignée de la cour ? Kildine battit des mains. Sans nul doute, ce jour serait celui de la réconciliation. Une nouvelle page de sa vie commençait. Dans son exaltation, elle avait la sensation d'avoir grandi comme si les vertus récemment acquises avaient étiré sa royale personne jusqu'à en faire quelqu'un de nouveau, d'une importance extraordinaire. Certes, c'était une émotion imprévue et bien agréable que d'être bonne. Il lui semblait que son visage resplendissait de fraîcheur, de beauté, que ses cheveux devenaient toujours plus bouclés et plus brillants. Est-ce que tous, même Dame Bouffie, s'apercevraient de cette transformation ? Même les deux robustes officiers, ceux qui avaient été obligés de la maintenir pendant ce voyage qu'elle aurait tant voulu oublier ? Les mois de Kildine prenaient de telles proportions qu'elle en était mal à l'aise. Pensez donc, elle pourrait de nouveau parler à quelqu'un qui lui répondrait. Et quel serait leur étonnement en entendant les mots aimables qui sortiraient de sa bouche. Oh, s'il pouvait seulement arriver, si les chevaux pouvaient aller plus vite, si du moins son papa se mettait son coursier au galop. Mais alors, peut-être sa précieuse couronne ne tiendrait-elle pas sur sa tête. Oh, mon Dieu, qu'il était difficile d'être patient. Comment se calmer? Oh, pour sûr, elle en serait malade. De nouveau, elle se remit à sa toilette, lissant ses boucles, s'agitant pour se rajuster. L'éclat brusque d'une trompette la fit tressaillir. Tra-ta-ta ! Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Il y eut un claquement d'ailes et les 21 aigles, au grand complet, se posèrent à leur place accoutumée. Un bruit de voix nombreuses au pied de la tour, le grincement d'une porte qui s'ouvrait, des pas sur l'escalier, le tintement du métal sur la pierre. Et alors, Kildine tomba dans les bras câlins de son père, puis dans ceux de sa mère, pour se trouver enfin encore plus fortement étreinte par Dame Bouffie, dont les exclamations et les soupirs se répercutaient en écho sur les murs sonores. Jamais les aigles solennels n'avaient été témoins d'une pareille émotion. Jamais la vieille tour n'avait contenu tant de joie. Ce n'était que baisers, rires, poignées de main, froufrous soyeux, cliquetis d'éperons, paroles, exclamations, saluts et révérences, larmes même. Au milieu de la fièvre universelle, Kildine sautillait de ci, de là, comme un petit oiseau au plumage éclatant, et chaque fois qu'elle passait devant Dame Bouffie, celle-ci la grippait au passage, la serrait contre son ample poitrine. Et chaque fois, l'enfant avait la sensation d'être tombé dans un plat de gélatine. Ces exubérantes manifestations de joie lui donnaient un peu chaud. Elle commençait à en avoir assez quand sa mère l'appela près d'elle. après quelques chuchotements, quelques rires étouffés avec la vieille nourrice, la princesse fut mystérieusement conduite à la petite chambre d'en bas. Là où elle avait passé tant de nuits solitaires, les deux femmes en extase l'habillaient d'une robe merveilleuse sortie d'un paquet dissimulé sous la mante de Dame Bouffy. La robe était rose et or, comme un lever de soleil. Les souliers où se glissèrent les petits pieds nus étaient entièrement brodés de minuscules perles. Sur ses épaules, elles fixèrent un manteau gris comme un nuage du soir, et dans sa chevelure bouclée posèrent une guirlande de roses sauvages, aussi fragiles et parfumées que la brise fugitive. Il serait vraiment superflu de répéter tous les mots de tendresse dont fut accablée Kildine, comparée successivement à une fleur, à une fée, à un ange de Dieu. On lui dit que ses cheveux étaient une merveille, que ses yeux ressemblaient à des étoiles, et que seuls les saints du paradis pouvaient être dignes de lui baiser la main. Kildine n'était pas sûre de se réjouir des diverses phases de sa toilette. Il y avait trop de coups de peigne dans ses boucles emmêlées, trop de savonnage et de friction sur les taches négligées. Les rares bains dans la mer lointaine n'avaient pas enlevé toutes les flétrissures de sa peau délicate. Désolant en vérité l'état de son linge, Dame Bouffy pensa s'évanouir en apprenant que depuis bientôt une année, Kildine ne s'était jamais servi de savon. Ce matin-là, la petite princesse comprit le sens de l'adage « Il faut souffrir pour être belle ». Mère et gouvernante, s'oubliant elle-même, polissaient, brossaient, peignaient, lavaient, comme s'il se fût agi d'un poney de prix qu'on se prépara à exposer. La pluie de baisers qui tombait sur la pauvre petite chassa presque ses vertus nouvellement acquises. Kildine, en vérité, était près de perdre patience comme au jour d'antan. Mais aussi, quel merveilleux résultat! Quand son Altesse royale, la princesse, fut prête, un tonnerre d'applaudissements la salua. Quand sa mère la ramena en triomphe au sommet de la tour, Kildine, se souvenant des résolutions prises pendant la solitude, s'écroula dans une révérence si profonde que nulle dame de la cour n'aurait pu en atteindre la perfection. Non, même pas après des années d'études. Leur Majesté, le roi et la reine saluèrent en signe d'approbation. Les dames plongèrent à leur tour. Les officiers firent le salut militaire et les soldats poussèrent un vivat. Vive la princesse Kildine ! De fait, ce fut une scène inoubliable et Kildine en eut une immense satisfaction. Ce n'était pas seulement ses manières qui s'était perfectionné pendant sa réclusion. Un cœur nouveau s'était épanoui en elle. Aussi, au moment du départ, l'enfant royal éprouva une tristesse réelle à se séparer des aigles, ces sombres gardiens de prison qu'elle regardait maintenant avec affection et qu'elle considérait maintenant comme ses amis. Faisant le tour de la terrasse du donjon, Kildine fit à chacun d'eux une petite révérence. Mais arrivé devant l'oiseau roi, son maître, l'enfant tendit les bras à son ennemi de jadis. Le grand oiseau descendit jusqu'à elle et tous deux s'embrassèrent en tendres amis, navrés de se séparer. Ce fut une scène étrange. Ceux qui naguère avaient connu Kildine eurent peine à croire que c'était la même enfant. Quelle différence entre ce retour et la lugubre chevauchée de l'année précédente. Kildine montait le même poney, mais cette fois elle était libre comme l'oiseau sur la branche. On entendait sa voix tandis qu'elle babillait et riait, agitant sa main vers les aigles, galopant d'un bout à l'autre du cortège, trouvant un mot aimable pour chacun. Les oiseaux n'étaient plus à présent que de petites taches sur la muraille de la lointaine prison à laquelle Kildine avait enfin échappé. Le roi et la reine chevauchaient fièrement, leurs couronnes étincelantes au soleil. plus de front courbé, de larmes cachées, d'yeux et de nez rouges, de soupirs, de cœurs meurtris. Tout n'était que soleil, lumière, espoir, résolution généreuse sous le grand ciel bleu. Oh, quel frémissement de drapeaux quand enfin ils entrèrent dans la ville. L'air paraissait vivant, avec des ondulations de bleu, de jaune, de vert, et tant de mouchoirs étaient agités en tous sens qu'on aurait cru à un vol de colombes descendu des toits. Kildine caracolait fièrement entre ses parents. Son petit poney, noir, steppait si haut que ses genoux cognaient presque ses naseaux. Les grelots de son cou tintaient. Et les plis de la robe de l'enfant flottaient dans la brise, pareil aux pétales d'une robe merveilleuse. Le cortège eut peine à traverser bien des rues avant de déboucher sur la place du marché, où les belles maisons anciennes regardaient du haut de leurs pignons sculptés le spectacle qui se déroulait en bas. Simultanément, Dame Bouffie et la petite princesse se souvinrent d'un triste matin, bien éloigné maintenant, où ces mêmes vénérables édifices avaient été témoins d'une scène bien différente et que toutes deux eussent préféré oublier. Comme pour rendre leurs souvenirs plus vivaces, la première personne qu'elles aperçurent fut Madame Vox Populi, installée dans son coin habituel, au pied de sa pyramide de pommes rouges. Sans l'ombre d'un sourire sur son visage, elle se tenait assise, plus large et plus forte que jamais, aussi intransigeante, inflexible que l'image du destin. Pas un être sur cette vaste place qui ne se fût mis debout. Partout il y avait des manifestations de loyalisme. Vieux, jeunes, petits et grands saluaient d'un cri de bienvenue le retour de la princesse. Mais il n'en était pas ainsi de Madame Vox Populi. Tandis que le cortège royal se rapprochait, la commère restait assise, rigide, bien appuyée au dossier de sa chaise, les mains croisées sur son ventre, les pieds largement écartés, gonflant ses joues, faisant fièrement montre de son indifférence. Le soleil tombait d'aplomb sur le parapluie écarlate, dont la lumière rouge se déversait si intense que la formidable femme avait l'air d'un fagot en flamme. Kildine, non sans répugnance, constata que la rencontre était inévitable. Une âme royale redoute instinctivement un contact hostile avec la foule. Mais combien plus grande devient l'épreuve si quelques souvenirs pénibles s'y mêlent? Le moment était venu. Le poney de Kildine l'avait porté à l'endroit où, telle une inexpugnable forteresse, son ennemi restait assise, retranchée derrière ses pommes, forteresse que nulle bonne parole ne pouvait ébranler, que nul sourire royal ne pouvait faire tomber. Mais n'était-ce pas le grand jour des amendes honorables, le jour où l'on doit présenter ses excuses, même si l'on est princesse? Ne fallait-il pas trouver quelque chose pour amener cette place forte à capituler? Kildine tira sur les rênes, obligeant ainsi tout le cortège royal à faire halte, et appelant à son aide l'esprit de ses ancêtres, elle s'adressa en ces termes à son ennemi. « Il y a bien longtemps que je ne vous ai vu, Madame Vox Populi. Puis-je vous demander si vous allez tout à fait bien? J'ai fait une longue absence, mais à présent me voici de retour. »«
Ben vrai !» grommela la femme. « Alors tant pis pour la ville. Je ne me suis jamais laissé prendre à vos boucles, à vos falbalas, à vos soies et à vos satins, à vos minauderies et à vos sourires. » J'en sais long sur votre compte depuis votre naissance. À mon idée, un peu moins d'histoire, un peu plus de fouet aurait simplifié les choses. Maintenant, tout ce que je vous demande, c'est de respecter mes belles pommes et de passer votre chemin. »
Kildine avala l'insulte. Un étrange besoin de fondre ce cœur de glace la saisit. Le double instinct de la femme et de la souveraine s'était éveillé dans son cœur d'enfant. « Je ne suis plus ce que j'étais, Madame Vox Populi, » dit-elle de sa voix la plus douce. « Un jour, il y a bien longtemps, j'ai maltraité vos pommes, mais alors je ne savais pas me conduire. Aujourd'hui, je viens vous exprimer mes regrets et vous demander que les fautes du passé soient oubliées, car dorénavant, je serai toujours sage.
« Oh, vraiment ?»
grogna la grossière vieille femme.
« Je n'en suis pas si sûr que ça. Votre lit sera trop moelleux et vous tiendrez toujours trop haut votre idiot de petit nez. Je ne vois pas qui vous enseignera à regarder la poussière qui est sous vos pieds au lieu de vous perdre dans les nuages. Non, non, petite pimbèche, allez débiter ailleurs vos jolis contes. Je crois dans les droits du peuple et je ne plierai devant aucune couronne, aucune pourpre. Je suis ici par la volonté du peuple et je n'en sortirai que par la force des baïonnettes. Le soleil est fait pour moi autant que pour vous. Allez vers votre palais et laissez-moi mes pommes. Un métier en vaut un autre. Ce n'est qu'un caprice du sort qui vous a mis sur le trône et moi dans la rue sous un parapluie. »
Kildine saisissait mal ce que grommelait la commère, mais se rendait bien compte du ton hostile de sa voix. Le roi avait ouvert deux fois la bouche pour protester contre un tel langage adressé à sa fille. La reine sentait confusément qu'elle devrait intervenir, mais ne sachant pas comment le faire, elle gardait le silence, assistant, nerveuse, à la scène qu'elle ne comprenait pas. Mais Dame Bouffie, elle, comprenait, et son âme populaire exultait devant le courage de l'enfant, car Kildine restait ferme sur ses positions. « Votre parapluie a une fort jolie couleur, » repartit gracieusement la princesse. Et ce n'est sans doute pas ma faute si je suis né dans un palais. Je ne sais vraiment pas comment cela s'est fait. Voulez-vous avoir l'obligeance de me laisser acheter une de vos pommes? Cette grosse-là, magnifique, qui brille tout au haut de la pyramide d'un aspect si alléchant.
Mes pommes sont tout ce qu'il y a de mieux. On n'en peut pas trouver de meilleures en ville. Mais les personnes royales, pas vrai, ne peuvent manger des fruits achetés dans la rue. Leurs estomacs délicats refuseraient une pareille nourriture et la cour du roi favorise les boutiques de luxe et non les éventaires du marché. Je connais une jeune femme qui fait des mines et des grâces, assise comme une grande dame derrière un comptoir de marbre. Elle vend ses légumes contre des pièces d'argent et d'or, tandis qu'on peut se procurer les miens pour moins d'un franc. Mais peut-on toujours s'attendre à du sens commun de la part de gens qui ne mettent jamais les pieds dans leur cuisine et qui usent toute leur eau chaude pour des bains? Allez-vous-en, dis-je, essayez sur d'autres vos sourires. On ne m'achète pas à ce prix-là. On m'appelle l'incorruptible.
Plus expérimenté que sa fille, le roi, à ces mots, comprit de quoi il s'agissait. Et se penchant vers la marchande, ce fut lui qui répondit.
Chère Madame Populi, il me semble qu'il y a un malentendu au fond de tout ceci. Certes, ma table royale aurait été encore mieux fournie si seulement j'avais connu la qualité de vos fruits. Je remercie le sort de nous avoir si obligeamment fait passer ce matin de votre éventaire. Désormais, ordre sera donné que toutes les pommes destinées à la cour soient choisies sous l'ombre de votre parapluie écarlate.
En attendant, permettez à ma fille chérie d'acheter cette belle pomme qu'elle désire tant et laissez-moi payer cette faveur à prix d'or. Là-dessus, le roi tira de sa poche une lourde bourse de soie et avec un geste d'infinie munificence, Sa Majesté la laissa tomber dans le tablier de la vieille. En vérité, Madame Vox Populi n'aurait pas été une créature humaine si cet honneur n'avait pas touché une des fibres de son être. Une manifestation aussi publique de la faveur royale ne pouvait pas être méconnue. Du coup, la bonne femme se sentit haussée à une dignité non encore rêvée. Son triomphe n'avait-il pas la rue tout entière pour témoin? passant le dos de sa main sur son nez agressif, elle renifla, se dressa avec effort et en marmottant, marcha lourdement vers la pomme qu'elle saisit et remit entre les mains de Kildin. Un instant, les anciennes ennemies se regardèrent face à face. Puis, la vieille révolutionnaire esquissa un drôle de mouvement qui ressemblait de très loin à une révérence, et comme elle dévisageait l'enfant royal, une extraordinaire grimace qui voulait être un sourire s'épanouit sur son visage rubicon.
Vrai ? Gloussa la bonne femme. Si c'est qu'on vous a appelé une pêche, m'est avis qu'on a eu raison. Mon seul souhait, c'est que vos vilaines colères soient tout à fait passées. Et laissez-moi vous dire une chose. Tous les dimanches, vous pouvez venir à ma baraque, je vous donnerai une pomme pour un franc, et les jours de fête, vous l'aurez pour rien du tout.
Cette promesse avait sans doute un air de générosité. Mais comme les dimanches et jours de fête, Madame Vox Populi ronflait derrière les volets fermés de sa mansarde, le cadeau promis ne lui ferait pas perdre d'argent. Cependant, ce discours avait l'intention d'être gracieux et représentait sans doute une concession inouïe à l'égard d'une caste qu'elle n'admettait pas. Ceci dit, n'ayant plus rien à ajouter, la vieille rebelle, enfin conquise, retourna à son siège en se dandinant. Kildin put se remettre en route avec le sentiment agréable d'avoir désarmé un adversaire. Les courtisans avaient froncé le nez, désapprouvant cette conversation en pleine rue. Leur opinion était que les rois et princesses doivent s'en tenir à leur rôle et laisser de semblables affaires entre les mains de ceux qui savent tenir la foule en respect. Lorsque les rois se mettent à converser avec les marchandes de pommes au beau milieu des places publiques de leur capitale, leur infaillibilité devient un mot dénué de sens et leur supériorité glorieuse un vain rêve du passé. Grand fut donc le soulagement général quand le cortège se remit en marche. Il ne reste que bien peu de choses à raconter. Les gens heureux n'ont point d'histoire. Et le roi était heureux. Heureuse la reine, heureuse Kildin. Madame Populi était heureuse sous son parapluie rouge. N'avait-elle pas enfin été appréciée à sa juste valeur? La majestueuse dame Bouffy était heureuse, car elle avait solennellement repris ses fonctions. Les aigles, ayant accompli leur tâche avec succès, étaient heureux. Heureux l'astrologue, parce qu'il avait vu juste dans ses astres, lesquels étaient heureux eux-mêmes, de n'avoir point parlé en vain. Grande était la joie du peuple en faveur de qui le roi venait de proclamer une fête chômée sur toute l'étendue du pays. Le vin coula à flot et des pièces d'argent furent distribuées avec prodigalité parmi les pauvres. La chronique ne raconte pas combien de temps dura la sagesse de Kildin, mais elle ne dit pas non plus quand elle prit fin. Nous pouvons donc espérer que ces bonnes résolutions ne tombèrent pas avec les feuilles de l'automne suivant, que Madame Vox Populi ne trouva plus de sujet de plainte et que ses pommes vendues au palais furent si douces, si savoureuses que jamais personne ne vint la remplacer comme fournisseur de la cour. Car si pareille chose s'était produite, je ne crois pas que mon histoire aurait pu finir ici. Fin de la deuxième piste de la troisième cassette. Page 95 et fin de l'histoire, Kildin, histoire d'une petite princesse, par Marie, reine de Roumanie.